1 Samuel au chapitre 17. Vous savez, j'ai de la suite dans les idées. La semaine dernière, on avait... C'est très original comme titre de message. C'est exactement le même que la semaine passée. Dieu révèle les péchés secrets, mais partie 2. C'est parce que la semaine passée, on avait commencé, je vous lis, dans 1 Timothée 5, 24 et 25. Ça dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, dans ce thème du mois de mai, qui est Dieu qui révèle les secrets, on considère, dans la même idée que ce qu'on a commencé la semaine dernière, le fait que Dieu révèle des péchés sur lesquels nous-mêmes, des fois, on ne se rend même pas compte qu'on peut... Vous savez, le cœur est trompeur et une des pires choses qui peut arriver, c'est... être aveugle à notre propre péché. Par exemple, l'orgueil. Vous savez que tout le monde, toutes les autres sont orgueilleux. Nous, on n'est pas orgueilleux, hein? Non, mais la nature humaine est de même, hein? Les autres, eux, ont donc bien un problème avec ça. Si au moins ils étaient rendus comme nous autres, ça irait bien. Bon, là, je fais... Je suis un peu, excuse-moi, pas grossier, mais je veux dire, j'exagère, mais... Avouez que quand même, ça passe dans notre cœur des pensées de même. Et donc, la semaine passée, on a vu justement l'orgueil et l'incrédulité avec l'histoire... de Josué. Et là, on considère, pour commencer, l'histoire de David et Goliath, dans 1 Samuel 17. On ne va pas lire maintenant, on va lire tantôt. Puis on va en considérer d'autres aussi. On va faire un voyage dans les Écritures. Avant, j'aimerais qu'on prie. Ah, Seigneur, merci que ta parole est la vérité, qu'on peut la considérer ensemble ce matin. Merci qu'on a pu la chanter, qu'on a pu, Seigneur, célébrer tes louanges. Et vraiment, on te remercie de ce que tu es la joie de nos cœurs. Tu es notre paix, notre victoire. Tu es notre tout en tous. Béni sois-tu, Seigneur. On vient à toi maintenant parce que on te demande de te faire le travail. Seigneur, c'est toi qui travailles pour ton peuple. Ça ne sert à rien qu'on essaye nous-mêmes, Seigneur. On vient à toi parce qu'on dépend de toi et on veut voir ce que toi, tu veux faire, tu peux faire. On veut, comme Jésus l'a dit à cette personne qui l'a guéri, « Va et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. » On désire raconter les merveilles de ta grâce. Alors, on s'en remet à toi. Dirige, Saint-Esprit, toi qui convainc, toi qui dirige, toi qui es le vrai enseignant, on s'en remet entre tes mains pour que ton œuvre s'accomplisse. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit, on continue dans la même lancée sur le Dieu qui révèle non seulement les secrets, mais les péchés secrets. C'est pas tellement qu'ils sont secrets, je dirais qu'ils sont plutôt sournois, trompeurs, subtils, mais qui néanmoins nous enveloppent si facilement. La semaine passée, on a considéré avec Josué, et bon, le récit de Jéricho, l'orgueil, l'incrédulité, on a découvert que ces deux péchés racines, des péchés qui sont... profondément ancré dans nos vies. Puis en passant à une racine, ça paraît pas. Et c'est ça l'idée, hein? C'est que c'est là et ça l'agit, mais on s'en rend pas nécessairement compte. C'est pas, ça tape pas, ça frappe pas les regards. Et donc, ça prend un Dieu qui révèle, ça prend un Dieu qui convainc, qui met le doigt sur le bobo, qui montre la réalité des choses, pas ce qu'on en pense ou ce qu'on s'imagine, mais ce qui en est réellement. Et cette semaine, on va voir trois autres péchés, avec des péchés comme ça qui peuvent être cachés à nos yeux, sur lesquels on peut se tromper, avec trois autres personnes, trois autres illustrations. Donc, ça va être encore l'incarnation de vérité dans la vie de personnages bibliques. J'aime beaucoup des messages comme ça parce que c'est tellement riche, puis souvent on se reconnaît, on voit des choses. Donc, vous savez qu'on commence avec David, et les deux autres après, je ne vous le dis pas tout de suite, sinon vous allez vous endormir à la moitié du message, ça, c'est pas une très bonne idée, OK? S'il vous plaît, faites pas ça. Je ne serais pas vraiment content de vous autres. Maintenant, je veux juste souligner quelque chose, un point important qu'il ne faut pas négliger. Dieu révèle les péchés, mais il nous les révèle souvent à nous dans notre vie, dans le feu de l'action, si je peux dire, c'est-à-dire nos actions. Évidemment, on sait qu'il y a des choses dans nos cœurs et tout ça, mais souvent, il va le révéler quand ça sort dans nos paroles et nos actions. Puis, c'est-à-dire que Dieu nous laisse faire des choses, nous laisse dire des choses, il nous laisse aller afin de nous révéler où est-ce qu'on en est puis qui il est, lui, par rapport à ça. Dieu se révèle à nous. Il nous laisse pécher pour qu'on voit que c'est terrible, puis qu'on voit comment lui est précieux. OK? C'est ça que je veux dire. Donc, Dieu, dans sa bonté, il agit comme ça. Et je dirais, le moyen par excellence par lequel il nous délivre de nous-mêmes, c'est justement en nous révélant ce qui nous enlace, ce qui nous rend esclaves. Il nous révèle les péchés secrets qui nous tiennent captifs. Il se révèle à nous comme le Dieu de toute grâce, de toute consolation, le Dieu des délivrances, l'Éternel des armées, celui qui a conquéri la mort, l'enfer, Satan, le péché. Et quand on arrive comme ça au bout de nos ressources, tout à fait sans rien devant Dieu, c'est là qu'on peut expérimenter sa consolation. C'est là qu'on peut expérimenter sa grâce. Et qu'on peut dire « Merci Seigneur ». Est-ce que je ne viens pas de résumer 2020-2021? Moi, en tout cas, je dirais que c'est pas mal ça. C'est la bonne œuvre de Dieu. Pourquoi il nous a délivrés de toutes sortes de façons de nous-mêmes? Vous savez, le pire ennemi, c'est pas ma femme, c'est pas mes enfants, c'est pas vous. C'est moi dans ma vie. Je suis mon pire ennemi. Parce que je peux me tromper, je peux me faire des accrocs, je peux penser que tout est donc beau. Mais je me trompe moi-même. Donc, on va voir ça avec trois personnes par lesquelles Dieu révèle trois péchés secrets, ou je dirais sournois. D'abord, on a David, on a lu l'histoire. Je veux juste regarder quelques versets pour souligner le point que je veux souligner avec l'histoire ici, la peur. La peur, c'était bien présent ici. Regardez verset 11. On est dans 1 Samuel 17. Y'avais-tu dit de tourner là?
Oui.
OK, merci. C'est une bonne idée. Hein? C'est ça qu'il fallait faire. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Regardez aussi le verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Mais regardez en contraste le verset 37 d'abord. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Regardez aussi versets 45 à 47. David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Méchant contraste. C'est le petit gars qui parle, là. C'est le new kid on the block qui n'avait pas rapport, là, qui impressionnait pas personne, là. En fait, son frère avait dit « Ah, je connais la méchanceté. » Puis en passant, il connaissait pas là, son cœur, mais il pensait « Ah, je sais que t'es juste ici pour voir le show. » Puis, tu sais, quand Eliab il parlait, là, pour ceux qui se rappellent pas, là. Parce qu'on a tout lu ça, je ne vais pas tout relire, mais bon. On a un contraste ici qui nous est dressé. On voit ici, Dieu met ici devant nous par la façon de l'illustration, un contraste entre la peur et le courage, entre la peur et la foi. Et c'est quoi la différence? L'idée ici, Dieu veut illustrer, démontrer que la peur, c'est pas une question de qui nous sommes. Parce que David n'était pas très, très impressionnant aux yeux de tout le monde. Mais la peur est une question de notre vision de qui Dieu est. Quand j'ai peur, c'est parce que je regarde à qui je suis. Quand j'ai la foi, c'est parce que je regarde à qui Dieu est. C'est ça le contraste ici. Israël regardait tous à Goliath, il avait peur. Mais David, même s'il était tout petit, il regardait à son Dieu. Et pour ça, il n'y avait rien de trop grand. Et c'est drôle que Dieu ait utilisé comme ça cet enfant, parce qu'on l'a lu tantôt au verset 42, il est qualifié comme un enfant. OK? Bon, il y avait peut-être 17, 18, on ne sait pas exactement l'âge, mais si vous connaissez les cultures, si vous parlez à ma femme, un enfant, c'est... Toutes les jeunes qui vont en haut, c'est tous des enfants. Okay? Puis, dans la culture roumaine, c'est... Mais je ne sais pas, en Afrique, c'est de même. Tant que t'es pas marié, t'es un enfant à peu près, là. Bon, peut-être qu'à 32 ans, tu deviens peut-être un adulte, même si t'es pas marié, je sais pas, là, mais... Donc, ici, enfant, c'est pas parce qu'il avait l'âge à Philippe, là. Okay, il était plus vieux que ça, mais il était considéré par les autres comme un enfant. Et Dieu, comme ça, voulait révéler à Israël sa peur. Il voulait révéler le péché qui était dans le cœur de l'armée. Elle, qui était une armée au complet contre un homme, était saisie, on a vu deux fois, d'une grande crainte. David avait ce qu'aucun en Israël n'avait à ce moment-là, un champ de vision spirituelle rempli par le Dieu vivant. Tout ce qu'il voyait, lui, c'était le Dieu que Goliath avait insulté. Les autres voyaient juste Goliath. Tandis que la perception spirituelle était tout à fait différente pour David. Et ce Dieu tout-puissant, vrai et vivant, il n'y a aucun géant qui est plus grand que ce Dieu-là. C'est vraiment une question de perception spirituelle. Vous savez, Dieu ici nous dresse une image de la perception aussi que le monde a de Jésus-Christ. Il n'en faut pas grand cas. À Noël, ils appellent le petit Jésus. Puis ils prennent le nom, son nom n'importe comment, comme... Vous savez qu'il y a une image ici de Christ contre le monde, contre le péché, contre l'ennemi qui se dresse. Lui petit, mais qui a vaincu. C'est une image ici. Et pour prendre un peu la pensée qu'il peut avoir en dehors de ça, ben c'est bien beau Jésus-Christ, mais avec ce problème-là, avec cette situation, ben on a besoin de plus. Quoi? Plus que le Fils de Dieu? Le seul Dieu qui sauve, celui que son nom, c'est le Sauveur, celui qui délivre, t'as besoin de plus? Non, c'est parce que tu t'es pas arrêté à qui, de qui tu parles. Si tu avais compris de qui tu parlais, tu dirais, j'ai pas besoin de rien de plus. Le reste, c'est de la vanité, c'est rien. Voyez-vous qu'on peut être exactement dans le même problème, avoir peur de toutes sortes d'affaires parce qu'on fait pas un grand cas de notre Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Il semble inférieur. Oh oui, il est méprisé. Mais il a en lui-même la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est la victoire. C'est pour ça que Dieu, ici avec David, hein, c'est pour ça que David ici n'a pas accepté l'armure de Saül. Pourquoi? Parce qu'aller au nom de l'Éternel, c'est suffisant. Quand il avait le nom de l'Éternel, il n'avait pas besoin de l'armure. Et ça, je pense qu'il y a une image ici de l'idée de la chair, des moyens de la chair, l'armure de la chair. OK? Si tu as accès par le nom de Dieu, au Dieu invincible et infini, pourquoi tu aurais besoin de quelques armes de la chair? Et mes amis, je crois que nos églises ont essayé pendant trop longtemps de combattre avec l'armure charnelle de Saül. Puis on a voulu se revêtir de cette armure au lieu de se revêtir du nom de l'Éternel et de son armure, comme on voit dans Éphésiens chapitre 6. Mes amis, avec nos méthodes, avec notre pragmatisme, avec notre psychologie populaire, tout ça, ça a été des efforts vains d'avoir la victoire sur les multiples problèmes de la condition humaine. Et cette peur viscérale que nous avons face aux problèmes, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ça, c'est devenu plus grand que le Dieu qui s'est révélé à nous. Puis pourtant, si on avait regardé à celui qui est notre délivrance, si on s'était appuyé sur celui dont le nom est au-dessus de tout nom, pourquoi on aurait eu peur? Wow! Je pose la question, de quoi ou de qui est-ce que tu as peur en ce moment? Ou si on met ça pour nous ensemble, qu'est-ce qui nous empêche de recourir exclusivement au nom de l'Éternel, de s'en aller comme David aux yeux du monde avec absolument rien? La réponse, je pense, c'est parce qu'on regarde à ce qui est visible et passager et non à ce qui est invisible et éternel. On regarde à nos problèmes, à nos Goliaths. On a les yeux fixés sur nos Goliaths et non sur notre Jésus-Christ, David, qui est celui qui a amené la délivrance. Ah oui, il est méprisé. Ah oui, les gens ne faisaient pas un cas. Mais c'est lui qui a amené la délivrance parce qu'il incarne celui qui est la délivrance, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et écoutez bien, nous avons peur et nous sommes figés comme Israël devant Goliath parce que nous regardons à ce que nous pouvons faire pour le vaincre au lieu de regarder à celui qui l'a déjà vaincu. Pensez-y, là. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour remporter cette victoire? Est-ce que Jésus n'a pas remporté déjà la victoire? Il a dit, prenez courage, je vais vaincre le monde. Non, il a parlé au passé, puis même c'était avant la croix, c'était tout accompli pour lui déjà, là. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons la victoire. D'ailleurs, frère NB, j'ai appris ça en Côte d'Ivoire. Il y avait un cantique, un livre de cantique qui disait « Nous aurons la victoire ». Puis il disait « Hey, c'est pas vrai ça, nous avons la victoire ». J'espère que ça a été corrigé. Je sais pas si vous le connaissez, c'est dans un livre, puis ils l'ont corrigé. Ils ont pris toutes les livres, ils ont barré tout ça, puis ils ont dit « Nous avons la victoire ». Hey, on a la victoire. Non seulement regarder à celui qui a déjà vaincu, mais aussi qui veut simplement nous utiliser dans notre faiblesse, notre impotence, notre petit. C'est ça l'image ici, là. Quelqu'un de faible, de méprisé, n'est-ce pas ce que Jésus était? Méprisé des hommes et homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Et donc, Dieu veut utiliser cette faiblesse de notre nature humaine, de notre impotence, de notre petitesse pour confondre la sagesse des sages, la force des forts de ce monde. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Comme ils disent en anglais, it's all about God. T'as pas à t'en faire. C'est pas nous le centre du show, là. C'est Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est garder les yeux sur lui. C'est ça, la victoire de la foi. Et mes amis, dans des situations comme ça, c'est comme ça que Dieu révèle nos peurs afin qu'on se confie dans sa force. Dieu ne révèle pas nos peurs pour qu'on soit le dindon de sa face et qu'on ait de l'air fou. Non, c'est pour nous montrer qu'on n'a rien à avoir peur. Oui, il nous montre l'état de nos cœurs et qu'on a peur. Mais c'est parce qu'il veut nous montrer qu'on n'a pas à avoir peur, que lui est digne de toute notre confiance. La peur, c'est regarder à soi. La foi, c'est regarder à Dieu. C'est la première leçon. Maintenant, ça va dans 1 roi et au chapitre 18. On est vraiment dans les passages célèbres. Là. On est dans les vedettes de l'Ancien Testament. Parce que là, c'est le feu qui descend du ciel avec Élie. Et donc, si le premier péché qui est caché dans nos cœurs, qui souvent peut être sournois, c'est la peur. Le deuxième, c'est l'idolâtrie. Et bon, on n'a pas le temps de tout lire le chapitre. Mais je veux juste lire, puis je vais vous résumer un peu l'histoire. Juste lire le verset 20 et 21, là. Déjà, on apprend ici, on voit le nom du roi qui causait pas mal de problèmes, puis à qui Élie tenait tête. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. On comprend à l'époque, c'était une époque d'idolâtrie. Le peuple de Dieu s'est détourné de l'Éternel. En fait, on pourrait résumer ça dans les termes du Nouveau Testament. Ils étaient irrésolus et inconstants dans toute leur voie. Ici, Élie décrit ça comme boitant des deux côtés. Et donc, Élie avait été envoyé dans Israël dans une période de grande idolâtrie, où est-ce qu'à sous la directive, l'influence du roi Achab, il allait vers les Baals, il allait vers des dieux étrangers. Et Dieu a suscité cet homme, Élie, pour clarifier que l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et toute l'illustration ici, là, avec l'autel d'Élie, avec l'eau, puis vous savez, là, c'était comme, on dit en anglais, c'était un showdown. Là. C'était pour essayer de prouver quelque chose. Okay? C'est que là, vous connaissez l'histoire, il y avait les 400 prophètes de Baal qui étaient supposés faire tomber le feu du ciel, ils se font toutes sortes de flagellations, il n'y a rien qui se passe. Non seulement quand c'est le tour d'Élie, ça a marché, le feu est tombé du ciel, mais il y avait un handicap. Il y avait handicap dans le sens de golf, là. C'est-à-dire qu'il a fait, puis elle faisait 3 ans et demi qu'il n'avait pas plu, donc l'eau était très précieuse, puis il a inondé l'autel d'eau. Puis le sacrifice a quand même été consumé en réponse à sa prière. Regardez ça, on a ça au verset 36-37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Mes amis, c'était la totale. Boum! Mais lui, un éclair qui tombe. Je ne sais pas si j'avais déjà vu un éclair. Lui, une fois, on était chez mon oncle André, à son chalet en Gaspésie. Puis c'était une belle journée d'été de même. Justement, un peu où est-ce qu'on appelle, il y a des cellules orageuses. Fait que des fois, tu peux avoir une orage qui se pointe un peu de nulle part. Ben là, on avait un beau pique-nique. Tout le monde était tout content. Puis une belle journée d'été. Puis à un moment donné, on n'a pas vu, c'était en pleine journée. C'est une journée ensoleillée de même. On n'a pas vu l'éclair, mais elle devait être tellement proche. Juste le craquement. Ça fait comme une espèce de crrr. C'est comme un arbre qui tombe. Je sais pas s'il y a peut-être un arbre qui est tombé, mais c'était tellement proche. Je me rappelle, la blonde à mon cousin Sébastien, elle avait un guacamole dans les bras, puis elle fait ah! Même pouf, elle a cassé, ça a tombé à terre. Son plan Pyrex était fini. Je me rappelle pas qu'il y avait de chien, là. Ça aurait fait un beau snack à chien, mais bon. Mais. C'est quand même impressionnant, là, le feu qui descend du ciel. Fait qu'imaginez-vous, là, c'était vraiment quelque chose là, et Dieu voulait prouver un point. C'est lui le seul vrai Dieu. Dieu s'attaquait à l'idolâtrie dans le cœur de son peuple. Dieu avait placé les choses de cette manière pour que tous soient dans une position qui est appropriée devant Dieu, tombés sur leur face. Ils sont tous tombés sur leur face. Et ça, c'est ce qui est la seule position appropriée face à un Dieu surnaturel comme le Dieu qui est présenté dans la Bible. Et c'est précisément ce qui est arrivé parce qu'Élie lui a donné, hein, il a fait confiance à Dieu, puis Dieu a pu se manifester ainsi. Donc, pour Élie, la victoire de sa foi sur l'idolâtrie, c'est quand il a laissé comme ça, tout comme Dieu avait placé, puis qu'il a fait confiance que Dieu allait se manifester comme étant ce qu'il est, comme disant ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Là, j'ai une application importante ici. Trop souvent, on a peur, c'est lié avec le point précédent, mais on a peur que Dieu ne soit pas capable de surmonter certaines difficultés. Puis on essaie d'arranger les conditions naturelles, les circonstances, pour lui donner un petit coup de main, dans le fond. Mais Élie a fait l'inverse, là. Il n'a pas dit, ah, OK, c'est bien juste assez, si le feu tombe du ciel, je vais être bien content. Non, il a rajouté de l'eau, il n'a pas mis ça pour que ça soit plus facile, il a mis ça pour que ça soit plus dur. Pourquoi? Parce que le point, c'était pour prouver que Dieu, c'était juste lui qui était Dieu. Il y a quelque chose là-dessus qui anéantit l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, c'est rapetisser Dieu. C'est se faire un petit Dieu à notre image qui peut fitter, pour prendre du bon québécois, qui peut fitter dans notre façon de penser. Il y a quelque chose de fort ici. Il n'a pas réduit Dieu, il a laissé Dieu tel qu'il est. Pensez-y, l'idolâtrie la plus subtile, celle dans nos cœurs où est-ce qu'on se fait un Dieu à notre image, c'est de réduire Dieu. Essayer de lui donner des chances comme s'il avait besoin de notre aide. Il y a une leçon puissante, là. C'est de réduire Dieu à notre capacité, à nos limitations. Et je pense qu'encore là, on a vu ça dans nos églises, dans le désir de faire de Dieu un succès aux yeux du monde. On a changé nos cultes d'adoration pour les rendre moins offensants au monde, plus culturellement appropriés. On a ajusté l'évangile pour pas qu'il soit trop offensant et confrontationnel. On a adopté notre façon d'approcher le monde, d'aider, puis tout ça, pour un peu donner un coup de main à Dieu. Parce que juste Jésus de même, puis dire qu'il est suffisant, on a besoin de quelque chose de plus. Rappelez quand on parlait de Jésus plus, l'approche hybride. Mes amis, c'est de l'idolâtrie. That's it! Dieu n'a pas besoin de notre aide, mes amis, avec ces choses-là. Savez-vous que si on fait confiance à Dieu, on n'a pas besoin d'insulter personne, mais on peut prêcher l'évangile tel qu'il est, sans l'édulcorer, sans essayer de l'adoucir. Si on prêche la vérité dans l'amour, c'est le matériau pur que Dieu se sert pour sauver les âmes, encore en 2021. C'est pas passé date. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas passé date. Puis en passant, les méthodes nouvelles, ça passe date. Parce qu'il y en a eu à un moment donné, puis là, il y en a des nouvelles. Ah, dans les années 70, c'était ça. Ouh! ils disent en anglais de pas the next big thing, après ça c'est the new big thing, I guess. En tout cas, je sais pas trop. Mais ça finit tout le temps par passer date, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, savez-vous qu'est-ce qui marche? C'est verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombent sur leur visage et disent c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais si on a ça dans une église, si on a ça avec les gens à qui qu'on parle, on a exactement tout ce qu'on a besoin. C'est ça la position appropriée devant Dieu, c'est ça qui marche, c'est la fin de l'idolâtrie, c'est quand on tombe devant ce Dieu grand et incomparable. Je le répète, Dieu n'a pas besoin de notre aide, ça c'est la pensée de l'idolâtrie. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, ça c'est la pensée de l'adoration. Quand on fait un Dieu à notre image, on essaie de l'aider parce qu'il n'est pas assez grand. Mais quand on voit comment Dieu est grand et incomparable, on tombe en adoration courbée devant lui. Puis on se rend compte que c'est nous qui avons désespérément besoin de son aide. Ça change complètement tout. Et Dieu révèle tout cela, on le voit ici dans ce chapitre précieux des Écritures. En mettant à nu la vanité de toute ingéniosité humaine, de la chair, parce qu'il veut prouver qu'il est la réponse à la prière. Ici, là, la réponse à la prière, c'est pas à proprement parler juste le feu qui tombe du ciel. C'est Dieu qui s'est révélé tel qu'il était. C'était ça le but. C'était pas juste pour un show. Comme quand Jésus faisait des miracles. C'était pas juste pour dire, hey, voyez-vous, je fais des choses. Non, c'était pour montrer qu'il était le Fils de Dieu envoyé. C'était toujours pour pointer à Dieu. Et c'est ça que Dieu faisait ici. Et maintenant, j'aimerais qu'on considère une troisième leçon tellement précieuse que Dieu, dans sa bonté, nous révèle des péchés dans nos cœurs. Puis pensez-y, là, ce qu'on vient de parler, la peur puis l'idolâtrie, avouez que c'est trompeur. Avouez que ça peut nous prendre sans trop qu'on s'en rende compte. Avouez qu'on peut avoir ça dans nos vies puis qu'on fonctionne pensant que tout est beau puis on s'en rend pas compte puis ça peut durer pendant des années. C'est des péchés secrets que Dieu doit révéler. Puis quand je dis secret, ça veut dire que je me cache des autres, c'est que moi-même, je ne m'en rends pas compte. Je ne pense pas que c'est vraiment si grave, je ne pense pas que c'est vraiment un problème. Donc la peur, l'idolâtrie, et maintenant regardez dans Luc, au chapitre 10, l'indifférence. Et on va regarder, je vous dis, on est vraiment dans les classiques ce matin. Donc David et Goliath, le feu qui descend du ciel avec Élie, et maintenant Marie de Béthanie. Marie et Marthe, vous connaissez bien ce passage, on va le lire ensemble. Luc chapitre 10, verset 38, jusqu'à la fin. Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Un court passage très riche en vérité. Ici, notre chère Marie, dans la situation ici qu'on voit, quand même, c'est pas Marie la mère de Jésus, c'est une Marie de Béthanie, celle de qui Jésus avait chassé sept démons. Alors, on a encore là un contraste entre Marie et Marthe. Et ça nous montre qu'on peut, au milieu de toute notre activité, notre zèle pour le Seigneur, hein, comme on voit Marthe ici, on peut passer à côté de l'essentiel. On peut passer à côté de celui qui est la bonne part. Et pour être direct, on peut avoir un zèle sans intelligence. Comprenons bien que Marthe ici aimait le Seigneur. J'ai aucun doute là-dessus. Mais elle avait une connaissance et une compréhension superficielle de son cœur, à elle et de celui de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'évertuait à faire. À faire, faire et faire pour son Dieu. Parce qu'elle l'aimait, là. C'est là aussi que c'est trompeur, là. À faire tout ça en ignorant ce que son Dieu pouvait faire pour elle. Pire encore, elle démontre une indifférence envers Dieu, puis envers sa sœur aussi. Jésus était là, puis il enseignait, il y avait un moment précieux, là, puis elle a passé complètement à côté de ça. Puis elle ne voyait pas non plus que sa sœur avait ce temps privilégié avec Dieu, puis pour elle, là, tout ça, ça était indifférente à la réalité spirituelle, à ce qui se passait comme moment unique entre Jésus puis Marie, puis qu'elle aussi aurait pu prendre part. Il y avait de l'indifférence dans son cœur par rapport à tout ça. Et même qu'elle parle de façon austère à sa sœur, au verset 40, hein? Marthe, occupée de faire soin domestique, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir, me laisse seule pour servir? » Autrement dit, elle trouvait que sa sœur était indifférente, mais elle ne voyait pas elle-même l'indifférence qu'elle avait. Elle avait les yeux sur le visible, sur ce qu'il y avait à faire, mais elle ne voyait pas l'opportunité unique qu'il y avait, qu'elle était en train de manquer. Et mes amis, si on veut servir Dieu de façon à lui plaire, nous devons passer du temps en sa présence pour découvrir qui il est. Et ça, mes amis, tu sais, on ne peut pas inverser les choses. J'ai beau servir Dieu de tout mon cœur, si ce n'est pas le fruit d'avoir de ce que Dieu m'a révélé sur lui, du temps que j'ai passé avec Dieu, je passe à côté de l'essentiel. Puis mon service, pourquoi? Comme ça dit dans 1 Corinthiens 13, ça ne sert à rien. Si je fais ça, pourquoi? Parce que Dieu est amour, puis c'est quand je suis en communion avec lui que cet amour m'inonde, me transforme, que cet amour fait son œuvre dans ma vie. C'est ça la bonne part. Et nous devons passer du temps en sa présence pour découvrir qui il est. Et on a ça aussi, vous savez, quand on regarde Jésus, on a vu ça dans la série, dans Matthieu, il a passé la première moitié de son ministère à parler de qui il est. Puis après ça, il a parlé de ce qu'il allait faire de son œuvre. Rappelez-vous, on a vu ça dans Matthieu. Pierre avait de la misère avec la deuxième partie. Il avait bien compris que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais comment cette personne si unique pouvait aller à la croix puis mourir comme un criminel? Et Dieu, dans sa bonté, se révélait à lui tranquillement. Puis il a compris quelque chose sur Jésus-Christ plus tard, Pierre, qui a fait qu'il a pu accepter ça. Le fait qu'il a pu, après ça, continuer à le servir, puis comme c'est à cause de ce que Jésus a révélé sur lui, que c'était pas évident. Ça n'a pas tout de suite computé, comme on dit. Là. Ça n'a pas tout de suite saisi son cœur. Mais c'est ça qui a fait la différence dans la vie de Pierre par la suite. On peut dire que Pierre a découvert plus tard ce que Marie découvrait là. Puis pourquoi je dis ça? Je pense que Marie le démontre par ce qu'elle a fait. J'arrive sur ce point-là dans un instant. Mais Marie, elle a montré que la meilleure façon de servir, d'honorer Dieu, c'est de le laisser verser son cœur dans le nôtre. Parce que si je ne laisse pas Dieu faire cette œuvre dans ma vie, si je ne le laisse pas travailler, écoutez bien, Dieu ne peut pas rien faire avec moi, à travers moi, qui vraiment va être digne de sa grandeur, de sa grâce. Pourquoi? Parce que pensez-y, Dieu n'a pas d'autre objet de sa grâce, de son amour, que ses enfants. Quand on est son enfant, on est l'objet, le focus, ok, c'est tout en son Fils, mais étant en Jésus-Christ, il donne, il verse sa grâce sur nous autres. Et pensez-y, Dieu n'a pas besoin de rien. Dieu est autosuffisant, il n'a pas besoin de personne, il n'a pas besoin de rien. OK? Mais, on peut dire qu'il a besoin de quelqu'un à qui il peut se donner. Dieu étant complètement suffisant pour manifester sa grâce, il a besoin de vase vide dans lequel il peut verser cette grâce. Et c'est ça qu'on est. C'est pour ça que si on le cherche puis on le prie, de verser en nous cette grâce, puis on a déjà toute cette grâce, mais qu'on soit disposé par rapport à ça, si on ne cherche pas par rapport à ça, on passe à côté d'une bénédiction qui ne peut pas se trouver autrement. Et en effet, ici, Marthe comprenait, malheureusement, que très peu, le cœur de son Seigneur. Elle était tellement zélée pour son Dieu qu'elle a du même coup rejeter le moment de grâce privilégié qu'il y avait devant elle. C'est quand même spécial. Par amour pour Dieu, pour le servir, elle a passé à côté du moment que lui voulait les servir. C'est ça ici la tragédie. C'est ça le péché de l'indifférence que le Seigneur veut nous révéler à travers ça puis dans nos vies. C'est-à-dire que Marie reconnaissait qu'elle n'avait rien à donner à Jésus, mais que lui avait tout à lui donner. Puis que passer à côté de ça, ça serait passer à côté de l'essentiel. C'est ça que Marie a saisi. Et c'est ça qu'on doit tous saisir. C'est quoi le résultat de tout ça? Marie a découvert ce qu'on doit tous découvrir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Puis donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus est venu pour servir. C'est lui qui veut nous servir avant qu'on veuille bien servir. Et Dieu veut pas qu'on... Il n'est pas contre le fait qu'on serve, mais il est pour l'ordre, il est un Dieu d'ordre. Il veut nous servir afin qu'on puisse le servir, afin que ça fasse une différence, qu'on puisse vraiment servir. Sinon, on fait tout ça dans le vide. Vous dites, pensez à 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Puis mais là, les grandes choses, là, tout donner, servir, me donner complètement, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et notre chair... Marie a fait un geste bien sacrificiel. On apprend ça dans Jean 12, où est-ce que Marie a oint les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. C'est un grand acte d'humilité parce que la Bible nous dit que la gloire de la femme, c'est ses cheveux, c'est vraiment, et elle s'est dépouillée comme ça. Et c'est un parfum de grand prix. Et là aussi, je pense qu'on a une leçon. Voyez-vous, Dieu veut briser l'indifférence dans notre vie suroccupée et frivole. Et ce, afin de nous faire apprécier qui il est, puis l'adorer en proportion de ce qu'on comprend, de ce qu'on croit de lui. Puis encore une fois ici, avec le geste du vase d'albâtre qui a été brisé, Marie n'a pas été comprise. Les gens n'ont pas dit « Waouh, quel beau geste !» Puis ils ont dit... Non, ils l'ont repris, puis ils disent, c'est un gaspille. Encore là, Dieu nous révèle quelque chose. Il y avait une indifférence par rapport à l'œuvre de Christ. Elle voyait quelque chose que les autres n'avaient pas encore vu. Elle adorait Christ déjà à l'avance pour la croix, alors que les autres avaient de la misère encore à gérer tout le fait qu'il était le Fils de Dieu, puis comment ça allait finir toute cette affaire-là. Elle, à cause qu'elle avait passé le temps... au pied de Jésus comme ça, elle voyait quelque chose que les autres, ça a pris bien du temps pour qu'ils puissent voir. Pensez-y, là, elle avait une longueur d'avance. Pas parce qu'elle était meilleure, parce qu'elle avait arrêté au pied de celui qui est le meilleur. Il y avait vraiment quelque chose là, mes amis. Et l'enfant, elle répondait à son... Pour elle, son sacrifice, c'était pas grand-chose parce qu'elle voyait le sacrifice qui s'en venait, qui était infiniment plus grand et extraordinaire. L'indifférence de ces gens autour d'eux, la dureté de cœur par rapport non seulement à elle, mais à Jésus-Christ. Parce qu'elle, comme je vous dis, elle voyait la grandeur du sacrifice, eux autres ne le voyaient pas encore. Tout ça était une leçon d'objet. Dieu est en train de les enseigner à travers cette petite servante, qui encore là n'était pas grand-chose aux yeux du monde. Là. C'était pas la vedette, là. Mais Dieu confondait les sages avec cette chère Marie. Et... est-ce que Marthe et Marie aimaient leur Seigneur? Comme je dis, je pense que les deux l'aimaient. En fait, écoutez bien, Marthe aimait assez Jésus pour mettre sa maison complètement en ordre pour lui. Mais Marie aimait assez Jésus pour mettre sa maison complètement de côté pour lui. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Marthe a fait de Jésus... le Dieu de sa maison, Marie a fait de Jésus le Dieu de son cœur. Et ça, c'est l'antidote à l'indifférence. On se trompe nous-mêmes lorsque on se trouve mille et une façons de servir le Seigneur en passant à regarder 80, je vais dire un chiffre, 17, 18, 19 des livres modernes. C'est mille et une façons de servir le Seigneur. Mais en se trompant nous-mêmes que si ce n'est pas le fruit de la connaissance de Dieu, combien il y a de livres qui se concentrent sur connaître Dieu et comment Dieu se révèle à nous? Ben, il y a ce livre-là, là, par excellence, là, il n'y en a pas d'autres. Mais dans les livres modernes qui se disent, hey, tu sais, qui regardent ce que Dieu révèle sur lui-même, il n'y en a pas même, c'est tout des how-to puis how-not-to puis tout. C'est très pragmatique. C'est très. Je vais essayer d'inventer un mot. Marthologique. Martinique. Non, ça, c'est vous, ça. C'est très martien. Pas martien, là. C'est très à la mode de Marthe. OK, comprenez-vous ce que je veux dire, là? Bon. Avant que je me ridiculise complètement. Vous avez été patient, puis j'ai presque terminé. Je veux juste amener une illustration ici. Vous savez, Marie a fait un geste coûteux. Un vase d'albâtre de grand prix, un parfum qui était utilisé pour les morts, pour lorsque quelqu'un mourait, pour embaumer. Merci, c'est le mot que je cherchais. L'argent. Sujet sensible. Moi, j'ai pas parlé d'argent depuis un an et demi. Ben, je veux pas en parler bien longtemps. Je veux juste regarder parce qu'elle a fait quelque chose ici. Tu sais, l'argent, c'est une réalité de la vie. C'est un besoin universel. Je veux dire, c'est indéniable. L'argent, ça fait partie de la vie. Puis Jésus a dit que je veux dire, ça fait partie de... Mais c'est aussi une démonstration de où est notre cœur. Je pense que notre rapport à l'argent révèle beaucoup où est notre cœur. Ou plutôt, est-ce que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, de son sacrifice, et s'est laissé servir et transformer par Dieu au point d'y briser, d'y chasser l'indifférence de notre avarice et notre incrédulité? OK, ce que je veux dire là, Dieu n'a pas besoin de notre argent. OK, ça c'est clair. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais on a besoin de Dieu et de sa grâce pour pas que l'argent devienne notre Dieu. Et j'ai un bel exemple. Connaissez les Corinthiens, pas les Corinthiens, les Macédoniens dans 2 Corinthiens chapitre 8. Écoutez ce que ça dit sur eux. Paul parle aux Corinthiens, puis il donne un exemple des Macédoniens. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça, c'est des gens qui adoraient Dieu. L'indifférence de leur cœur était brisée par rapport à leur Dieu, puis le sacrifice de Christ, puis ça se répandait par rapport aux autres. Là, ici, l'argent, nous avons une question, la collecte, c'est pour les saints de Jérusalem. C'est une offrande missionnaire, si vous voulez. Et les Macédoniens avaient été remplis, émerveillés de l'amour de Dieu, du calvaire. Où est-ce qu'ils ne pouvaient plus s'empêcher de donner en réponse à ça? Pour eux, c'était... Je veux dire, il insistait à des grandes instances. Il voulait la grâce, imaginez-vous. Si vous voulez, faites-nous la grâce, on veut les aider. Wow, il y a quelque chose qui avait saisi. Il y a une indifférence qui était complètement chassée du cœur de ces personnes-là. Puis regardez, versets 8 et 9 du même chapitre. « Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. » N'est-ce pas que c'est drôle que ça parle du zèle? Dieu n'est pas contre le zèle. Mais Dieu veut que ça vienne de lui, que ça soit le fruit, la réponse à ce que Christ a fait. Parce que regardez verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » Tout est par rapport à Christ et ce que lui a fait. Et vous savez, la question des finances, de vos finances personnelles, de votre famille, de l'Église ici, c'est une question d'adoration. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de parler bien d'argent en tant que... Si on parle d'adoration, puis comment Dieu est grand, puis l'œuvre du calvaire, comment c'est merveilleux, amen. On devrait répondre comme les Corinthiens. Dire, hey, puis il faudrait empêcher le monde de dire, hey, arrêtez, là, on ne sait plus quoi faire avec cet argent-là. Si on rendait avec trois orphelinos au Malawi. Non, mais c'est ça la puissance de Dieu qui brise notre indifférence. Parce que pensez à ça. J'ai pris juste l'argent comme une illustration, mais... C'est pour montrer qu'on peut être indifférent et même pas s'en rendre compte. Puis Dieu va souvent le révéler par des moyens comme ça. Et le geste que Marie a fait, ça révélait l'indifférence dans le cœur des autres. C'était la seule qui ne l'était pas. Il y a quelque chose de puissant qui était là. C'est possible de se fabriquer dans notre imagination un Dieu tellement petit qu'on a peur de lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas comme étant le vrai Dieu. qui lui se révèle, puis qui se révèle tel qu'il est. Mais si on est trop indifférent, trop occupé, ou parce qu'on aime trop d'autres choses qui prennent toute notre attention, on est en train de s'engouffrer dans l'indifférence et l'endurcissement. Donc, ma question ce matin, c'est quoi que Dieu pointe sur ton cœur? La peur? L'idolâtrie? L'indifférence? Ou peut-être toutes les réponses? Je suis content que ce soit le Saint-Esprit qui convainc. Que ce soit lui qui enseigne. Mais il y a quelque chose là-dessus, par exemple. C'est à lui qu'on rencontre. C'est lui qui pointe à nos cœurs. Et devant lui, il n'y en a pas de tromperie. Mais pensez-y, Dieu est bon. Quand il nous révèle ce qui est dans notre cœur, c'est parce qu'il nous montre. Il se révèle, lui, comme étant le remède, comme étant celui qui a une grâce, qui surabonde avec ses péchés, qui peuvent abonder dans notre cœur. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour les chrétiens ici, qu'il ne faut pas s'arrêter à nos péchés parce qu'ils nous empêchent. Puis, oh non, je ne suis pas heureux, j'ai un cœur idolâtre, puis j'ai donc bien de l'indifférence. Oui, c'est vrai, puis il faut arriver, puis il faut le confesser à Dieu, mais il faut voir que notre Dieu est plus grand que ça, que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est ça qui est merveilleux. Puis même avec quelqu'un ici qui n'a pas Dieu réellement comme son sauveur dans sa vie, c'est la même affaire. On peut avoir entendu, nos oreilles peuvent avoir été exposées à l'Évangile, au fait que Jésus est le seul qui sauve. Puis je pense que tout le monde qui est ici a une connaissance de l'Évangile, mais il ne l'a peut-être pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez ce que je veux vous lire dans 2 Corinthiens encore, mais au chapitre 5. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est mon plaidoyer ce matin pour tout le monde. Si vous êtes un enfant de Dieu et que le péché que Dieu vous montre en ce moment vous empêche d'apprécier comment il est bon, comment il est grand, comment il est suffisant. Ça peut changer ce matin. Dieu est vivant. Hey, comment de réponse aux prières on a eu dernièrement? Mais, wow! Puis, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Dieu est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Amen. Il y a de l'espérance avec Dieu. C'est le Dieu de toute espérance. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Que ta parole, elle est vivante, ta parole, elle est vraie, et qu'on a pu s'asseoir ensemble pour la considérer. Merci, Seigneur, que tu es vrai, tu es vivant, et tu es au milieu de nous. On n'a pas juste entendu des paroles, on n'a pas juste considéré une lettre morte, mais l'Esprit vivifie, l'Esprit est celui qui enseigne, qui convainc, qui se sert de ses paroles pour accomplir l'œuvre de Dieu. Merci que tu nous as donné ce temps à tes pieds, qu'on a pu s'arrêter, choisir la bonne part. Seigneur, tu es bon de nous révéler, oui, qui nous sommes, la laideur de notre péché, la tromperie de notre péché, mais aussi, oh Seigneur, merci de nous révéler qui tu es, de toi faire un œuvre, un travail qui est incomparable, insurpassable, merveilleux. On te loue, Seigneur. Continue, Seigneur. Et alors que ton peuple maintenant est appelé à répondre à ce que tu as dit, puisses-tu en être glorifié, être élevé au milieu de nous. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, si vous voulez.